Chapitre 3. De l'opinion publique en France à l'avènement de Louis XVI. Il existe une lettre de Louis XV adressée à la duchesse de Choiseul, dans laquelle il lui dit « J'ai eu bien de la peine à me tirer d'affaire avec les parlements pendant mon règne, mais que mon petit-fils y prenne garde, il pourrait bien mettre sa couronne en danger. » En effet, il est aisé de voir, en suivant l'histoire du XVIIIe siècle, que ce sont les corps aristocratiques de France qui ont attaqué les premiers le pouvoir royal. Non qu'ils voulussent renverser le trône, mais ils étaient poussés par l'opinion publique. Or, elle agit sur les hommes à leur insu, et souvent même contre leur intérêt. Louis XV laissa en France pour héritage à son successeur un esprit frondeur, nécessairement excité par les fautes sans nombre qu'il avait commises. Les finances n'avaient marché qu'à l'aide de la banqueroute. Les querelles des jésuites et des jansénistes avaient déconsidéré le clergé. Des exils, des emprisonnements sans cesse renouvelés n'avaient pu vaincre l'opposition du Parlement. Et l'on avait été forcé de substituer à ce corps, dont la résistance était soutenue par l'opinion, une magistrature sans considération, présidée par un chancelier mésestimé, M. de Maupeou. Les nobles, si soumis sous Louis XIV, prenaient part au mécontentement général. Les grands seigneurs et les princes du sang eux-mêmes allèrent rendre hommage à un ministre, M. de Choiseul, exilé parce qu'il avait résisté au méprisable ascendant de l'une des maîtresses du roi. Des modifications dans l'organisation politique étaient souhaitées par tous les ordres de l'État, et jamais les inconvénients de l'arbitraire ne s'étaient fait sentir avec plus de force que sous un règne qui, sans être tyrannique, avait été d'une inconséquence perpétuelle. Cet exemple démontrait plus qu'aucun raisonnement le malheur de dépendre d'un gouvernement qui tombait entre les mains des maîtresses, puis des favoris et des parents des maîtresses, jusqu'au plus bas étage de la société. Le procès de l'ordre des choses qui régissait la France s'était instruit sous Louis XV, de la façon la plus authentique aux yeux de la nation. Et de quelque vertu que le successeur de Louis XV fût doué, il était difficile qu'il ôtât de l'esprit des hommes sérieux l'idée que des institutions fixes devaient mettre la France à l'abri des hasards de l'hérédité du trône. Plus cette hérédité même est nécessaire au bien-être général, plus il faut que la stabilité des lois, sous un gouvernement représentatif, préserve une nation des changements dans le système politique, inséparable du caractère de chaque roi, et encore plus de celui de chaque ministre. Certainement, s'il fallait dépendre sans restriction des volontés d'un souverain, Louis XVI méritait mieux que tout autre ce que personne ne peut mériter. Mais l'on pouvait espérer qu'un monarque d'une conscience aussi scrupuleuse serait heureux d'associer de quelque manière la nation à la responsabilité des affaires publiques. Telle aurait été sans doute sa manière constante de penser si, d'une part, l'opposition s'était montrée dès l'origine avec plus d'égard, et si de l'autre, certains publicistes n'avaient pas voulu de tout temps faire envisager au roi leur autorité comme une espèce d'article de foi. Les ennemis de la philosophie tâchent de représenter le despotisme royal comme un dogme religieux, afin de mettre ainsi leurs opinions politiques hors de la teinte du raisonnement. En effet, elles sont plus en sûreté de cette manière. La reine de France, Marie-Antoinette, était une des personnes les plus aimables et les plus gracieuses qu'on eût vues sur le trône. Et rien ne s'opposait à ce qu'elle conservât l'amour des Français, car elle n'avait rien fait pour le perdre. Le caractère personnel de la reine et du roi était donc tout à fait digne d'attachement. Mais l'arbitraire du gouvernement français, tel que les siècles l'avaient fait, s'accordait si mal avec l'esprit du temps que les vertus mêmes des princes disparaissaient dans le vaste ensemble des abus dont ils étaient environnés. Quand les peuples sentent le besoin d'une réforme politique, les qualités privées du monarque ne suffisent point pour arrêter la force de cette impulsion. Une fatalité malheureuse plaça le règne de Louis XVI dans une époque où de grands talents et de hautes lumières étaient nécessaires pour lutter avec l'esprit du siècle, ou pour faire ce qui valait mieux, un pacte raisonnable avec cet esprit. Le parti des aristocrates, c'est-à-dire les privilégiés, sont persuadés qu'un roi d'un caractère plus ferme aurait pu prévenir la révolution. Ils oublient qu'ils ont eux-mêmes commencé les premiers, et avec courage et raison, l'attaque contre le pouvoir royal. Et quelle résistance ce pouvoir pouvait-il leur opposer, puisque la nation était alors avec eux? Doivent-ils se plaindre d'avoir été les plus forts contre le roi et les plus faibles contre le peuple? Cela devait être ainsi. Les dernières années de Louis XV, on ne saurait trop le répéter, avaient déconsidéré le gouvernement. Et, à moins qu'un roi militaire n'eût dirigé l'imagination des Français vers les conquêtes, rien ne pouvait détourner les différentes classes de l'État des réclamations importantes que toutes se croyaient en droit de faire valoir. Les nobles étaient fatigués de n'être que courtisans. Le haut clergé désirait plus d'influence encore dans les affaires. Les parlements avaient trop et trop peu de force politique pour se contenter de n'être que juges. Et la nation, qui renfermait les écrivains, les capitalistes, les négociants, un grand nombre de propriétaires et une foule d'individus employés dans l'administration, la nation comparait impatiemment le gouvernement d'Angleterre, où le talent conduisait à tout, avec celui de la France, où l'on n'était rien que par la faveur ou par la naissance. Ainsi donc, toutes les paroles et toutes les actions, toutes les vertus et toutes les passions, tous les sentiments et toutes les vanités, l'esprit public et la mode, tendaient également au même but. On a beau parler avec dédain du caractère français, il veut énergiquement ce qu'il veut. Si Louis XVI eût été un homme de génie, disent les uns, il se fût mis à la tête de la Révolution. Il l'aurait empêché, disent les autres. Qu'importent ces suppositions ? Il est impossible que le génie soit héréditaire dans aucune famille. Or, un gouvernement qui ne pourrait se défendre contre les vœux de la nation que par le génie supérieur de ses rois serait dans un terrible danger de succomber. En examinant la conduite de Louis XVI, on y trouvera sûrement des fautes, soit que les uns lui reprochent de n'avoir pas assez habilement défendu son pouvoir illimité, soit que les autres l'accusent de n'avoir pas cédé sincèrement aux lumières du siècle. Mais ces fautes ont été tellement dans la nature des circonstances qu'elles se renouvelleraient presque autant de fois que les mêmes combinaisons extérieures se représenteraient. Le premier choix que fit Louis XVI pour diriger le ministère, ce fut M. de Maurepas. Certes, ce n'était pas un philosophe novateur que ce vieux courtisan. Il ne s'était occupé, durant 40 ans d'exil, que du regret de n'avoir pas su prévenir sa disgrâce. Aucune action courageuse ne la lui avait méritée. Une intrigue manquée était le seul souvenir qu'il eût emporté dans sa retraite, et il en sortit tout aussi frivole que s'il ne se fût pas un instant éloigné de cette cour, l'objet unique de ses pensées. Louis XVI ne choisit M. de Maurepas que par un sentiment de respect pour la vieillesse, sentiment très honorable dans un jeune roi. Cet homme, cependant, pour qui les termes mêmes qui désignent le progrès des Lumières et les droits des nations étaient un langage étranger, se vit tellement entraîné par l'opinion publique à son insu que le premier acte qu'il proposa au roi fut de rappeler les anciens parlements, bannis pour s'être opposés aux abus du règne précédent. Ces parlements, plus convaincus de leur force par leur rappel même, résistèrent constamment aux ministres de Louis XVI, jusqu'au moment où ils aperçurent que leur propre existence politique était compromise par les mouvements qu'ils avaient provoqués. Deux hommes d'État du plus rare mérite, M. Turgot et M. de Malesherbes, furent aussi choisis par ce même M. de Maurepas, qui sûrement n'avait aucune idée en commun avec eux. Mais la rumeur publique les désignait pour des emplois éminents, et l'opinion se fit encore une fois obéir, bien qu'elle ne fût représentée par aucune assemblée légale. M. de Malesherbes voulait le rétablissement de l'édit de Henri IV en faveur des protestants, l'abolition des lettres de cachet et la suppression de la censure qui anéantit la liberté de la presse. Il y a plus de 40 années que M. de Malesherbes soutenait cette doctrine. il aurait suffi de l'adopter alors pour préparer par les Lumières ce qu'il a fallu depuis céder à la violence. M. Turgot, ministre non moins éclairé, non moins ami de l'humanité que M. de Malesherbes, abolit la corvée, proposa de supprimer dans l'intérieur les douanes qui tenaient aux privilèges particuliers des provinces, et se permit d'énoncer courageusement la nécessité de soumettre les nobles et le clergé à payer leur part des impôts dans la même proportion que le reste de la nation. Rien n'était plus juste et plus populaire que cette mesure, mais elle excita le mécontentement des privilégiés. M. Turgot leur fut sacrifié. C'était un homme roide et systématique, tandis que M. de Malesherbes avait un caractère doux et conciliant. Mais ces deux citoyens généreux, dont les manières étaient différentes, bien que leurs opinions fussent semblables, éprouvèrent le même sort. Et le roi, qui les avait appelés, peu de temps après, renvoya l'un et rebuta l'autre, dans le moment où la nation s'attachait le plus fortement aux principes de leur administration. C'était une grande faute que de flatter l'esprit public par de bons choix pour l'en priver ensuite. Mais M. de Maurepas nommait et renvoyait les ministres d'après ce qui se disait à la cour. L'art de gouverner consistait pour lui dans le talent de dominer le maître et de contenter ceux qui l'entouraient. Les idées générales, en aucun genre, n'étaient de son ressort. Il savait seulement ce qu'aucun ministre ne peut ignorer, c'est qu'il faut de l'argent pour soutenir l'État, et que les parlements devenaient tous les jours plus difficiles sur l'enregistrement des impôts. Sans doute ce qu'on appelait alors en France la constitution de l'État, c'est-à-dire l'autorité du roi, renversait toutes les barrières, puisqu'elle faisait taire, quand on le voulait, les résistances du Parlement par un lit de justice. Le gouvernement de France a été constamment arbitraire, et de temps en temps, despote. Mais il était sage de ménager l'emploi de ce despotisme, comme toute autre ressource, car tout annonçait que bientôt elle serait épuisée. Les impôts et le crédit, qui vaut en un jour une année d'impôts, étaient devenus tellement nécessaires à la France que l'on redoutait avant tout des obstacles à cet égard. Souvent en Angleterre, les communes unissent, d'une façon inséparable, un bill relatif aux droits de la nation avec un bill de consentement aux subsides. Les corporations judiciaires, en France, ont essayé quelque chose de semblable. Quand on leur demandait l'enregistrement de nouveaux tributs, bien que cet enregistrement pût leur être enjoint, elles accompagnaient leur acquiescement ou leur refus de remontrances sur l'administration, appuyées par l'opinion publique. Cette nouvelle puissance acquérait chaque jour plus de force, et la nation s'affranchissait, pour ainsi dire, par elle-même. Tant que les classes privilégiées avaient seules une grande existence, on pouvait gouverner l'État comme une cour, en maniant habilement les passions ou les intérêts de quelques individus. Mais, lorsqu'une fois la seconde classe de la société, la plus nombreuse et la plus agissante de toutes, avait senti son importance, la connaissance et l'adoption d'un plus grand système de conduite devenaient indispensables. Depuis que la guerre ne se fait plus avec les soldats conduits par les grands vassaux, et que les rois de France ont besoin d'impôts pour payer une armée, le désordre des finances a toujours été la source des troubles du royaume. Le Parlement de Paris, vers la fin du règne de Louis XV, commençait à faire entendre qu'il n'avait pas le droit d'accorder les subsides. Et la nation approuvait toujours sa résistance à cet égard. Mais tout rentrait dans le repos et l'obéissance dont le peuple français avait depuis si longtemps l'habitude quand le gouvernement marchait sur ses roulettes accoutumées, sans rien demander à aucune corporation qui pût se croire indépendante du trône. Il était donc clair que, dans les circonstances d'alors, le plus grand danger pour le pouvoir du roi était de manquer d'argent. Et c'est d'après cette conviction que M. de Maurepas proposa de nommer M. Necker directeur général du Trésor royal. Étranger et protestant, il était tout à fait hors de la ligne des choix ordinaires. Mais il avait montré une si grande habileté en matière de finances, soit dans la Compagnie des Indes dont il était membre, soit dans le commerce qu'il avait pratiqué lui-même 20 ans, soit dans ses écrits, soit enfin dans les divers rapports qu'il avait constamment entretenus avec les ministres du roi, depuis le duc de Choiseul jusqu'en 1776, époque de sa nomination, que M. de Maurepas fit choix de lui seulement pour qu'il attirât de l'argent au trésor royal. M. de Maurepas n'avait pas réfléchi sur la connexion du crédit public avec les grandes mesures d'administration. Il croyait donc que M. Necker pourrait rétablir la fortune de l'État comme celle d'une maison de banque, en faisant des spéculations heureuses. Rien n'était plus superficiel qu'une telle manière de concevoir les finances d'un grand empire. La révolution qui se manifestait dans les esprits ne pouvait être écartée du foyer même des affaires qu'en satisfaisant l'opinion par toutes les réformes qu'elle désirait. Il fallait aller au-devant d'elle, de peur qu'elle ne s'avançât trop rudement. Un ministre des Finances ne saurait être un jongleur qui fait passer et repasser de l'argent d'une caisse à l'autre, sans avoir aucun moyen réel d'augmenter la recette ou de diminuer la dépense. On ne pouvait remettre l'équilibre entre l'une et l'autre qu'à l'aide de l'économie, des impôts ou du crédit. Et ces diverses ressources exigeaient l'appui de l'opinion publique. Examinons maintenant de quels moyens un ministre devait se servir pour la captiver. Chapitre 4. Du caractère de M. Necker comme homme public. M. Necker, citoyen de la République de Genève, avait cultivé dès son enfance la littérature avec beaucoup de soin. Et lorsqu'il fut appelé, par sa situation, à se vouer aux affaires du commerce et de finances, son premier goût pour les lettres mêla toujours des sentiments élevés et des considérations philosophiques aux intérêts positifs de la vie. Madame Necker, qui était certainement une des femmes les plus instruites de son temps, réunissait constamment chez elle tout ce que le XVIIIe siècle, si fécond en hommes distingués, pouvait offrir alors de talents illustres. Mais l'extrême sévérité de ses principes la rendit inaccessible à toute doctrine contraire à la religion éclairée dans laquelle elle avait eu le bonheur de naître. Ceux qui l'ont connue attestent qu'elle a traversé toutes les opinions et toutes les passions de son temps sans cesser d'être une chrétienne protestante, aussi éloignée de l'impiété que de l'intolérance. Il en était de même de M. Necker. D'ailleurs, aucun système exclusif ne plaisait à son esprit, dont la prudence était l'un des traits distinctifs. Il ne trouvait aucun plaisir dans l'innovation en elle-même. Mais il n'avait point les préjugés d'habitude, auxquels une raison supérieure ne saurait jamais s'asservir. Le premier de ses écrits fut un éloge de Colbert, qui remporta le prix à l'Académie française. Il fut blâmé par les philosophes d'alors parce que l'auteur n'adoptait pas en entier, relativement au commerce et aux finances, le système dont on voulait faire un devoir à l'esprit. Déjà se manifestait le fanatisme philosophique, l'une des maladies de la Révolution. On voulait accorder à un petit nombre de principes le pouvoir absolu que s'était arrogé jusque-là un petit nombre d'hommes. Dans le domaine de la pensée aussi, il ne faut rien d'exclusif. Dans le second ouvrage de M. Necker, intitulé « Sur la législation et le commerce des grains », il reconnut de même la nécessité de quelques restrictions à la libre exportation des blés, restrictions commandées par l'intérêt pressant et journalier de la classe indigente. M. Turgot et ses amis se brouillèrent à cette occasion avec M. Necker. Une émeute causée par la cherté du pain eut lieu dans l'année 1775 où M. Necker publia son livre. Et parce qu'il avait signalé les fausses mesures qui provoquèrent cette émeute, quelques-uns des économistes les plus exagérés en accusèrent son ouvrage. Mais ce reproche était absurde, car un écrit fondé sur des idées purement générales ne peut avoir d'influence à son début que sur les classes supérieures. M. Necker, ayant eu toute sa vie à faire aux choses réelles, savait se plier aux modifications qu'elles exigent. Toutefois, il ne rejetait pas avec dédain les principes, car il n'y a que les gens médiocres qui mettent en opposition la théorie et la pratique. L'une doit être le résultat de l'autre, et elles se confirment toujours mutuellement. peu de mois avant d'être nommé ministre, M. Necker fit un voyage en Angleterre. Il rapporta de ce pays une admiration profonde pour la plupart de ses institutions. Mais ce qu'il étudia particulièrement, c'est la grande influence de la publicité sur le crédit et les moyens immenses que donne une assemblée représentative pour soutenir et pour renouveler les ressources financières de l'État. Néanmoins, il n'avait pas alors l'idée de proposer le moindre changement à l'organisation politique de la France. Si les circonstances n'avaient pas forcé le roi lui-même à ce changement, M. Necker ne se serait jamais cru le droit de s'en mêler. Il considérait avant tout le devoir individuel et présent auquel il se trouvait lié. Et quoiqu'il fût plus convaincu que personne des avantages d'un gouvernement représentatif, il ne pensait pas qu'une telle proposition pût partir d'un ministre nommé par le roi, sans que son souverain l'y eût autorisé positivement. D'ailleurs, il était dans la nature de son caractère et de son esprit d'attendre les circonstances, et de ne pas prendre sur lui les résolutions qu'elles peuvent amener. Bien que M. Necker fût très prononcé contre des privilèges tels que les droits féodaux et les exemptions d'impôts, il voulait entrer en traité avec les possesseurs de ces privilèges, afin de ne jamais sacrifier sans ménagement les droits présents aux biens futurs. Ainsi, lorsque d'après sa proposition, le roi abolit dans ses domaines les restes de la servitude personnelle, la main morte, etc., l'autorité royale ne prononça rien sur la conduite que devaient tenir les seigneurs à cet égard. Elle se confia seulement à l'effet de son exemple. M. Necker désapprouvait hautement l'inégalité de la répartition des impôts. Il ne pensait pas que les privilégiés dussent supporter une moindre part des charges publiques que tous les autres citoyens de l'État. Cependant, il n'engagea point le roi à rien décider à cet égard. L'établissement des administrations provinciales, comme on le verra dans un chapitre suivant, était selon lui le meilleur moyen pour obtenir du consentement volontaire des nobles et du clergé le sacrifice de cette inégalité d'impôts, qui révoltait encore plus la masse de la nation que toute autre distinction. Ce ne fut que dans le second ministère de M. Necker en 1788, lorsque le roi avait déjà promis les états généraux et que le désordre des finances, causé par le mauvais choix de ses ministres, l'avait remis de nouveau dans la dépendance des parlements. Ce fut, dis-je, seulement alors que M. Necker aborda les grandes questions de l'organisation politique de la France. Tant qu'il put s'en tenir à de sages mesures d'administration, il ne recommanda qu'elles. Les partisans du despotisme, qui auraient voulu trouver un cardinal de Richelieu dans la personne du premier ministre du roi, ont été très mécontents de M. Necker. Et, d'un autre côté, les amis ardents de la liberté se sont plaints de la constante persévérance avec laquelle il a défendu non seulement l'autorité royale, mais les propriétés même abusives des classes privilégiées, lorsqu'il croyait possible de les racheter au lieu de les supprimer sans compensation. M. Necker se trouva placé par les circonstances comme le chancelier de l'hôpital, entre les catholiques et les protestants. Car les querelles politiques de la France, dans le XVIIIe siècle, peuvent être comparées aux dissensions religieuses du XVIe. Et M. Necker, comme le chancelier de l'hôpital, essaya de rallier les esprits à ce foyer de raison qui était au fond de son cœur. Jamais personne n'a réuni d'une façon plus remarquable la sagesse des moyens à l'ardeur pour le but. M. Necker ne se déterminait aucune démarche sans une délibération longue et réfléchie dans laquelle il consultait tour à tour sa conscience et son jugement, mais nullement son intérêt personnel. Méditer, pour lui, c'était se détacher de soi-même. Et, de quelque manière qu'on puisse juger les divers partis qu'il a pris, il faut en chercher la cause hors des mobiles ordinaires des actions des hommes. Le scrupule dominait en lui, comme la passion domine chez les autres. L'étendue de son esprit et de son imagination lui donnait quelquefois la maladie de l'incertitude. Il était de plus singulièrement susceptible de regrets et s'accusait souvent en toute chose avec une injuste facilité. Ces deux nobles inconvénients de sa nature avaient encore accru sa soumission à la morale. Il ne trouvait qu'en elle décision pour le présent et calme sur le passé. Tout homme juste qui examinera la conduite publique de M. Necker dans ses moindres détails y verra toujours l'influence d'un principe de vertu. Je ne sais si cela s'appelle n'être pas un homme d'État, mais si l'on veut le blâmer sous ce rapport, c'est aux délicatesses de sa conscience qu'il faut s'en prendre, car il avait l'intime conviction que la morale est encore plus nécessaire dans un homme public que dans un particulier. Parce que le gouvernement des choses grandes et durables est plus évidemment soumis que celui des circonstances passagères aux lois de probité instituées par le Créateur. Pendant le premier ministère de M. Necker, lorsque l'opinion n'était point encore pervertie par l'esprit de parti et que les affaires marchaient d'après les règles généralement reconnues, l'administration qu'inspira son caractère fut universelle et toute la France considéra sa retraite comme une calamité publique. Examinons d'abord ce premier ministère, avant de passer aux cruelles circonstances qui ont amené la haine et l'ingratitude dans les jugements des hommes. Chapitre 5. Des plans de M. Necker relativement aux finances. Les principes que M. Necker avait adoptés dans la direction des finances sont d'une telle simplicité que leur théorie est à la portée de tout le monde, bien que l'application en soit très difficile. On peut dire aux ministres d'État « soyez justes et fermes », comme aux écrivains « soyez ingénieux et profonds ». Ces conseils sont très clairs, mais les qualités qui permettent de les suivre sont fort rares. M. Necker pensait que l'économie et la publicité qui est la garantie de la fidélité dans les engagements sont les bases de l'ordre et du crédit dans un grand empire. Et de même que, dans sa manière de voir, la morale publique ne devait pas différer de la morale privée, il croyait aussi que la fortune de l'État pouvait, à beaucoup d'égards, se conduire par les mêmes règles que celles de chaque famille. Mettre les recettes de niveau avec les dépenses, arriver à ce niveau plutôt par le retranchement des dépenses que par l'augmentation des impôts, et, lorsque la guerre devenait malheureusement nécessaire, y suffire par des emprunts dont l'intérêt fut assuré ou par une économie nouvelle ou par un impôt de plus. Tels sont les premiers principes dont M. Necker ne s'écartait jamais. Il est aisé de concevoir qu'aucun peuple ne peut faire la guerre avec son revenu habituel. Il faut donc que le crédit permette d'emprunter, c'est-à-dire de faire partager aux générations futures le poids d'une guerre qui doit avoir leur prospérité pour objet. On pourrait encore supposer dans un État l'existence d'un trésor, comme en avait le grand Frédéric. Mais, outre qu'il n'existait rien de pareil en France, il n'y a que les conquérants, ou ceux qui veulent le devenir, qui privent leur pays des avantages attachés à la circulation du numéraire et à l'action du crédit. Les gouvernements arbitraires, soit révolutionnaires, soit despotiques, ont recours, pour soutenir la guerre, à des emprunts forcés, à des contributions extraordinaires, à des papiers-monnaies, car nul pays ne peut ni ne doit faire la guerre avec son revenu. Le crédit est donc la véritable découverte moderne qui a lié les gouvernements avec les peuples. C'est le besoin du crédit qui oblige les gouvernements à ménager l'opinion publique. Et de même que le commerce a civilisé les nations, le crédit, qui en est une conséquence, a rendu nécessaire des formes constitutionnelles quelconques pour assurer la publicité dans les finances et garantir les engagements contractés. Comment le crédit pourrait-il se fonder sur les maîtresses, les favoris ou les ministres qui changent à la cour des rois du jour au lendemain? Quel père de famille confierait sa fortune à cette loterie? M. Necker, cependant, a su, le premier et le seul parmi les ministres, obtenir du crédit en France sans aucune institution nouvelle. Son nom inspirait une telle confiance que, très imprudemment même, les capitalistes de l'Europe ont compté sur lui comme sur un gouvernement, oubliant qu'il pouvait perdre sa place d'un instant à l'autre. Les Anglais et les Français s'accordaient, pour le citer, avant la Révolution, comme la plus forte tête financière de l'Europe. L'on regardait comme un miracle d'avoir fait 5 ans la guerre sans augmenter les impôts et seulement en assurant l'intérêt des emprunts sur des économies. Mais quand l'esprit de parti vint tout empoisonner, on imagina de dire qu'il y avait du charlatanisme dans le système de finances de M. Necker. Singulier charlatanisme que celui qui repose sur l'austérité du caractère et fait renoncer au plaisir de s'attacher beaucoup de créatures en donnant facilement l'argent levé sur le peuple. Les juges irrécusables des talents et de l'honnêteté d'un ministre des Finances, ce sont les créanciers de l'État. Pendant l'administration de M. Necker, les fonds publics montèrent et l'intérêt de l'argent baissa jusqu'à un taux dont on n'avait point eu d'exemple en France. Les fonds anglais, au contraire, subirent dans le même temps une dépréciation considérable. Et les capitalistes de tous les pays s'empressèrent de concourir aux emprunts ouverts à Paris comme si les vertus d'un homme avaient pu tenir lieu de la fixité des lois. M. Necker, a-t-on dit, a fait des emprunts, ce qui devait ruiner les finances. Et de quels moyens l'Angleterre s'est-elle servie pour arriver au degré de richesse qui lui a permis de soutenir avec éclat 25 ans de la plus terrible guerre? Les emprunts dont l'intérêt n'est pas assuré ruineraient l'État s'ils étaient longtemps praticables. Mais heureusement, ils ne le sont pas, car les créanciers sont très avisés sur ce qui les touche et ne prêtent volontairement que sur des gages positifs. M. Necker, afin d'assurer l'intérêt et le fonds d'amortissement nécessaires à la garantie des paiements, attachait une réforme à chaque emprunt, et il résultait de cette réforme une diminution de dépenses plus que suffisante pour le paiement des intérêts. Mais cette méthode si simple de retrancher sur ses dépenses pour augmenter ses revenus ne paraît pas assez ingénieuse aux écrivains qui veulent montrer des vues profondes en traitant des affaires publiques. L'on a dit aussi que les emprunts viagers, dont M. Necker a fait quelquefois usage pour attirer les capitaux, favorisaient le penchant des pères à consommer d'avance la fortune qu'ils devaient laisser à leurs enfants. Cependant, il est généralement reconnu que l'intérêt viager, tel que M. Necker l'avait combiné, est une spéculation tout comme l'intérêt perpétuel. Les meilleurs pères de famille plaçaient sur les 30 têtes à Genève dans l'intention d'augmenter leurs biens après eux. Il y a des tontines viagères en Irlande. Il en existait depuis longtemps en France. Il faut se servir de différents genres de spéculation pour captiver les diverses manières de voir des capitalistes. Mais on ne saurait mettre en doute si un père de famille peut, lorsqu'il veut régler sa dépense, s'assurer une grande augmentation de capital en plaçant une partie de ce qu'il possède à un intérêt très haut et en épargnant chaque année une portion de cet intérêt. Au reste, on est honteux de répéter des vérités si généralement répandues parmi tous les financiers de l'Europe. Mais quand, en France, les ignorants des salons ont attrapé sur un sujet sérieux une phrase quelconque, dont la rédaction est à la portée de tout le monde, ils s'en vont la redisant à tout propos, et ce rempart de sottise est très difficile à renverser. Faut-il répondre aussi à ceux qui accusent M. Necker de n'avoir pas changé le système des impôts et supprimé les gabelles en soumettant les pays d'État qui en étaient exempts à une contribution sur le sel? Il ne fallait pas moins que la Révolution pour détruire les privilèges particuliers des provinces. Le ministre qui aurait osé les attaquer n'aurait produit qu'une résistance nuisible à l'autorité du roi, sans obtenir aucun résultat utile. Les privilégiés étaient tout-puissants en France il y a 40 ans, et l'intérêt seul de la nation était sans force. Le gouvernement et le peuple, qui sont pourtant deux parties essentielles de l'État, ne pouvaient rien contre telle ou telle province, tel ou tel corps. Et des droits bigarrés, héritages des événements passés, empêchaient le roi même de rien faire pour le bien général. M. Necker, dans son ouvrage sur l'administration des finances, a montré tous les inconvénients du système inégal d'impôts qui régnait en France. Mais c'est une preuve de plus de sa sagesse que de n'avoir entrepris à cet égard aucun changement pendant son premier ministère. Les ressources qu'exigeait la guerre ne permettaient de s'exposer à aucune lutte intérieure. Car pour innover en matière de finances, il fallait être en paix, afin de pouvoir captiver le peuple en diminuant la masse des impôts, alors qu'on en aurait changé la nature. Si les uns ont blâmé M. Necker d'avoir laissé subsister l'ancien système des impôts, d'autres l'ont accusé d'avoir montré trop de hardiesse en imprimant le compte rendu au roi sur la situation de ses finances. M. Necker était, comme je l'ai dit, dans des circonstances à peu près semblables à celles du chancelier de l'hôpital. Il n'a pas fait un pas dans la carrière politique sans que les novateurs lui reprochassent sa prudence, et les partisans de tous les anciens abus sa témérité. Aussi l'étude de ces deux ministères est-elle peut-être la plus utile que puisse faire un homme d'État. On y verra la route de la raison, tracée entre les factions contraires, et des efforts toujours renaissants pour amener une transaction sage entre les vieux intérêts et les nouvelles idées. La publicité du compte rendu avait pour but de suppléer en quelque manière au débat de la Chambre des communes d'Angleterre, en faisant connaître à tous le véritable état des finances. C'était porter, disait-on, atteinte à l'autorité du roi que d'informer la nation de l'état des affaires. Si l'on n'avait eu rien à demander à cette nation, on aurait pu lui cacher la situation du trésor royal. Mais le mouvement des esprits ne permettait pas qu'on pût exiger la continuation de taxes très onéreuses sans montrer au moins l'usage qu'on en avait fait ou qu'on en voulait faire. Les courtisans criaient contre les mesures de publicité en finance, les seules propres à fonder le crédit, et néanmoins ils sollicitaient avec une égale véhémence, pour eux et les leurs, tout l'argent que ce crédit même pouvait à peine fournir. Cette inconséquence s'explique toutefois par la juste crainte qu'ils éprouvaient de voir le jour entrer dans les dépenses qui les concernaient. Car la publicité de l'état des finances avait aussi un avantage important, celui d'assurer aux ministres l'appui de l'opinion publique dans les divers retranchements qu'il était nécessaire d'effectuer. L'économie offrait de grands moyens en France à l'homme courageux qui, comme M. Necker, voulait y avoir recours. Le roi, quoiqu'il n'eût point de luxe pour lui-même, était d'une telle bonté qu'il ne savait rien refuser à ceux qui l'entouraient. Et les grâces de tout genre excédaient sous son règne, quelque austère que fût sa conduite, les dépenses mêmes de Louis XV. M. Necker devait considérer comme son premier devoir, et comme la principale ressource de l'État, la diminution des grâces. Il se faisait ainsi beaucoup d'ennemis à la cour et parmi les employés des finances. Mais il remplissait son devoir, car le peuple alors était réduit par les impôts à une détresse dont personne ne s'occupait, et que M. Necker a proclamé et soulagé le premier. Souffrir pour ceux qu'on ne connaissait pas et refuser à ceux que l'on connaissait était un effort pénible, mais dont la conscience faisait une loi à celui qui l'a toujours prise pour guide. À l'époque du premier ministère de M. Necker, la classe la plus nombreuse de l'État était surchargée de dîmes et de droits féodaux, dont la Révolution l'a délivrée. Les gabelles et les impôts que supportaient certaines provinces et dont d'autres étaient affranchis, l'inégalité de la répartition, fondée sur les exemptions des nobles et du clergé, tout concourait à rendre la situation du peuple infiniment moins heureuse qu'elle ne l'est maintenant. Chaque année, les intendants faisaient vendre les derniers meubles de la misère, parce que plusieurs contribuables se trouvaient dans l'impossibilité d'acquitter les taxes qu'on leur demandait. Dans aucun État de l'Europe, le peuple n'était traité d'une manière aussi révoltante. À l'intérêt sacré de tant d'hommes se joignait aussi celui du roi, qu'il ne fallait pas exposer aux résistances du Parlement pour l'enregistrement des impôts. M. Necker rendait donc un service signalé à la couronne lorsqu'il soutenait la guerre par le simple fruit des économies et le ménagement habile du crédit, car de nouvelles charges irritaient la nation et popularisaient le Parlement en lui donnant l'occasion de s'y opposer. Un ministre qui peut prévenir une révolution en faisant le bien doit suivre cette route, quelle que soit son opinion politique. M. Necker se flattait donc de retarder, du moins encore pendant plusieurs années, par l'ordre dans les finances, la crise qui s'approchait. Et, si l'on avait adopté ses plans en administration, il se peut que cette crise même n'eût été qu'une réforme juste, graduelle et salutaire.